France Musique. Andy Warhol, le pape du pop art. Populaire, éphémère, jetable, bon marché, produit en masse, spirituel, sexy, plein d'astuces, fascinant et rapporte gros, qu'est-ce que c'est ? C'est le pop art décrit par le peintre anglais Richard Hamilton, né en 1922. Une expression inventée par le critique d'art Lawrence Alloway à la fin des années 50, soutenant que l'art prend appui sur la culture populaire de son temps. Né en Angleterre, le mouvement du pop art, branché futurisme et technologie, est constitué des peintres Eduardo Paolozzi et Richard Hamilton, du couple d'architectes Alison et Peter Smithson et de Lawrence Dalloway. Ensemble, ils annoncent l'euphorie de la consommation, la révolution musicale et vestimentaire des fameuses Swinging 60s. Aux États-Unis, à la même période, les artistes ont une autre définition du pop art. Plus ironique, il défigure les produits de masse que sont les films hollywoodiens, les tubes, les réclames, la BD. Pour ces artistes, il faut donner un sens différent et inviter celui qui les regarde à prendre du recul sur la société de consommation. Celui que l'on retient comme le pape du mouvement se nomme Andy Warhol. Il est convaincu que l'art aux États-Unis n'est plus là pour exprimer le romantisme, les émotions et l'intériorité, mais pour signifier l'inverse, l'insensibilité et le voyeurisme. Alors, Warhol se fait peintre du quotidien, banal ou désastreux. Warhol, manipulateur d'identité, consommateur d'images, chantre du détournement, de la reproduction, de la série, est aussi un briseur de limites, un ogre affamé d'expériences, de nouvelles collaborations. En reproduisant sur la toile des boîtes de soupe Campbell, il pousse le bouchon pop plus loin que le mouvement Fluxus avant lui. Les bouteilles de Coca-Cola, les boîtes de tampons Brio, tout comme les tableaux réalisés à partir d'images de presse, font de lui définitivement le peintre symbole de l'Amérique triomphante. Le mythe de l'artiste solitaire, convaincu et désintéressé, se fissure. Au-delà des sujets qu'il impose, Andy Warhol bouleverse les codes de l'art. La peinture n'est plus une œuvre unique. Dès 1962, il adopte le procédé de la sérigraphie, une méthode d'impression mécanique, à partir de photomatons, colorés et répétés sur une même toile.
I didn't have an opportunity to do anything, actually, during the year that I was there at 20th Century Fox the first time, except one part in Scudahoo-Scudahay, and I was cut out of it. And then they dropped me.
C'est lui qui supervise la composition, choisit les fonds colorés, les cadrages, les dimensions. Il ajoute souvent des touches au pinceau. Mais avec ses 302 représentations de Jackie Kennedy, réalisées à partir de 8 photos de presse, ou ses quelques 200 portraits de Mao, la Gold Marilyn Monroe ou Liz Taylor, Warhol transforme le sens même de la série, chère à Monet ou à Matisse. Il propose une allusion évidente aux icônes byzantines observées dans son enfance. Ce passage de l'un au multiple, de l'objet unique de désir vers l'objet de consommation, Warhol en fait l'un des piliers de la factory. Entre sexe, drogue et rock'n'roll, l'ancienne usine située sur la 47e rue devient le symbole de l'industrialisation de l'art. Cette transformation de l'œuvre d'art, poussée par les techniques de reproduction, produit la bascule du pop art des années 1960. Que ce soit dans la musique, la peinture ou le cinéma, la consommation de l'œuvre par le plus grand nombre est l'objectif visé par la rentabilité et le retour sur investissement. D'objet unique et privatif, l'objet devient un lieu commun et partagé. Andy Warhol questionne dès lors la consommation de masse de façon agressive. Mais Warhol ne se contente pas de peindre les stars de son époque. Avec son appareil photo, il fixe tout ce qu'il peut, tout ce qui l'entoure, de jour comme de nuit. Il est un photographe à part entière. Il devient aussi le messager du cinéma underground. Ses films s'appellent Jesse Girls, Blue Movie ou Lonesome Cowboys. Il en réalise 260. Parmi eux, symbole du cinéma radical, 8 heures de plan fixe sur l'Empire State Building ou dans Sleep, plus de 5 heures de contemplation d'un homme qui dort. Warhol développe ici l'esthétique de la répétition. Il est obsédé par l'image et la conservation. Alors, il invite chaque nouvel entrant dans la factory à s'installer 3 minutes seul devant la caméra. Son principe consiste à brancher et à laisser tourner la machine, comme une caméra de surveillance. Il est à l'origine de toute la télé-réalité. L'image ne lui suffit pas. Il va bouleverser toute la presse. En 1969, la mini-cassette vient de voir le jour. Warhol s'extasie et lance le magazine Interview. Une chronique du rythme endiablé des nuits new-yorkaises, un journal consacré aux stars du cinéma, puis très vite, de la mode et de l'art. Pour la première fois, un magazine ne se consacre pas à des sujets, mais à des personnes. Toute la presse People naît de là. Peinture, photographie, cinéma, presse, mais aussi musique. Andy Warhol a dessiné pas moins de 50 pochettes de disques. La musique illustrée par les pochettes Warhol va du jazz au classique, en passant par le rock et la soul. Ce sont alors les commandes de la compagnie Columbia dans les années 1950. Il travaille sur les pochettes du célèbre chef d'orchestre Arturo Toscanini, la légende du jazz Thelonious Monk, le guitariste swing Barney Kissel, jusqu'à l'album des Smiths en 1987, année de sa mort. Mais aussi les inoubliables Aretha Franklin, Liza Minnelli, John Lennon et les Rolling Stones. C'est eux qui commandent à Warhol la pochette de Sticky Fingers. La fameuse braguette en fera l'une des couvertures d'albums les plus populaires de l'époque. Les pochettes de disques de Warhol, c'est aussi la pochette à la banane du premier album du Velvet Underground. Toute l'œuvre de Andy Warhol est portée par la musique. Sa culture musicale embrasse tout. La comédie musicale, les musiques de films hollywoodiens, les tubes rock. Il ne cache pas sa passion pour l'art lyrique. Richard Wagner et Maria Callas sont ses idoles. Il n'est d'ailleurs pas insensible à la notion d'art total défendue par le compositeur allemand. Influencé par l'avant-garde musicale de la fin des années 50, Warhol crée ses œuvres sous un mode de composition sérielle ou musique répétitive. C'est le musicien et théoricien de la musique, John Cage, qui lui fait découvrir en 1963, lors d'un concert historique, les vexations d'Eric Satie. La répétition d'un motif 840 fois inspire profondément Andy Warhol. Aussi, lorsqu'en 1965, Andy Warhol découvre la musique expérimentale du groupe de rock The Velvet Underground, il est tout de suite fasciné. Ce que le groupe parvient à exprimer en musique est très proche de ce qu'il cherche lui aussi dans son art. Il devient alors rapidement le manager du groupe. Son large réseau dans le monde de l'art l'aide à devenir un promoteur de génie. Il demande à Nico, un top modèle allemand, de rejoindre le groupe pour lui donner une touche glamour. Et en 1967, on découvre Andy Warhol dans une scénographie psychédélique, Exploding Plastic Inevitable. Réalisé avec le groupe Velvet Underground, il produit son propre spectacle. C'est une œuvre d'art totale, à la fois plastique et musicale. Dans une discothèque du East Village à New York, une sélection des œuvres graphiques de Warhol sont projetées au mur, sous forme de diapositives. Le public danse sur la musique de son groupe rock. Warhol a compris comment s'imposer sur le marché, choquer, attirer la presse. Andy Warhol abandonne alors la création au profit de la production. Inscrire ses œuvres dans le système marchand et produire un art consommable, achetable, reproductible. L'art est alors une marchandise, une image sans qualité, vidée de toute profondeur et de tout élément sacré. Il clame vouloir être une machine, il n'est que l'écho d'une réalité. La montée du capitalisme fondée sur les lois du marché, plutôt que la dénoncer, il s'en saisit. Il pousse alors au paroxysme le droit à la jouissance du paradis sur terre que prône le monde moderne et postmoderne, être comblé par la production d'objets de jouissance. Une mise en garde d'un art devenu illusion, d'une société marchande où seul le démontrable, la réalité, l'objet, existe. Une fin du désir et un just do it. To kill or die for, and no religion too. Imagine all the people
But I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one.
À réécouter sur francemusique.fr.